très souvent, trop souvent, nous croyons que tirer profit de l'Évangile signifie en tirer un principe moral, une règle de conduite. Ce n'est pas totalement faux, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous le sentons bien, autre chose est en jeu, avec le récit de ce qu'il faut bien appeler une fugue de Jésus. Oui, avec ce récit, nous le sentons bien, il ne s'agit pas de morale chrétienne à mieux comprendre et à mieux mettre en œuvre. Pourtant, ces textes nous sont donnés à une messe de dimanche pour un jour de fête. Nous devons donc supposer que cette évocation de la Sainte Famille est exemplaire, comme est exemplaire l'histoire de l'Ancien Testament qu'on nous a racontée, l'histoire d'Elkana et d'Anne. L'histoire de cette femme, de cette mère, de celui qui deviendra le prophète Samuel. Mais pourquoi ces récits sont-ils exemplaires ? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui pour nos familles? Qu'ont-ils à dire à notre Église, elle qui a connu ces derniers mois des débats souvent houleux autour du fameux synode sur la famille? Aussi, nous avons bien écouté, et ce n'est pas chose facile parce que nous pouvons croire que ces textes sont trop connus et qu'on nous rabâche de vieilles histoires. Le jour où nous fêtons nos familles humaines, au moment où nous les confions à la Sainte Famille, reconnaissons que nous recevons de bien curieux enseignements, avec cette histoire d'un bébé à peine sevré que sa mère renonce à élever elle-même, et cette histoire d'un adolescent qui choisit d'échapper à la surveillance de ses parents. Que veut nous dire aujourd'hui l'Écriture, la parole de Dieu? Parce que ce sont bel et bien deux récits à travers lesquels les liens familiaux, la famille, cessent d'être des absolus. Oh, ils ne sont pas remis en cause. Anne et Elkana, Marie et Joseph, sont pour toujours les parents de leur fils. Mais à travers ce qui se passe, ou ce qu'ils font, le Seigneur les amène à accepter que cette filiation soit relativisée au profit de sa paternité divine. Le petit Samuel, le jeune Jésus, sont appelés à être dans la maison de l'unique Père, dans la maison du Seigneur. Il nous est dit que c'est leur vraie place, leur juste place. Et même, nous l'avons entendu, Jésus s'étonne que Marie et Joseph ne le sachent pas, alors que lui, mystérieusement, l'a compris, l'a découvert comme une évidence durant ce pèlerinage à Jérusalem. Ah, alors nous pouvons nous dire, d'accord, mais il s'agit de deux enfants exceptionnels, Samuel, Jésus. Mais qu'en est-il des liens familiaux habituels, d'une famille humaine ordinaire? Eh bien, aujourd'hui comme ailleurs, la Bible ne donne pas d'injonction formelle, elle nous donne à écouter. Alors écoutons ces récits. Comment résonne en nous ces récits particuliers, en nous, comme parents ou comme enfants? En écoutant ce qui arrive à Samuel, en écoutant ce que dit et fait Jésus, est-ce que nous ne sentons pas que cette relativisation de la famille est du côté de l'ouverture, de la liberté, peut-être du soulagement, en tout cas du côté de ce que produit d'habitude en nous le sentiment d'être dans le vrai? Disons-le tout net, est-ce que ce n'est pas du côté de ce que produit généralement en nous l'expérience de Dieu? Oh, il ne s'agit pas pour chaque parent d'aller déposer leur bébé dans un monastère, pour chaque enfant de quitter sa famille pour aller étudier les Écritures saintes. Mais écouter de tels récits peut et devrait pouvoir mener très loin. Se savoir avant tout fils, fille de Dieu, pour chacun, parent ou enfant, c'est découvrir, plus radical que les liens du sang, une origine divine qui dépasse les réalités légitimes de l'arbre généalogique. C'est se sentir libéré des solidarités familiales, dans ce qu'elles peuvent avoir, parfois, d'égoïste ou d'arbitraire, en tout cas de l'unité. C'est pouvoir s'ouvrir à des solidarités vastes comme le monde. C'est se découvrir des frères et des sœurs innombrables, capables d'éveiller en nous, dans le bonheur ou dans l'adversité, sans que cela pose toujours des grandes joies, cela peut causer aussi de grands soucis, mais en tout cas capable d'éveiller ce qu'il y a de meilleur et de plus créatif en nous, de plus révélateur de cette dignité que nous partageons avec tous les hommes, de cette dignité d'enfant de Dieu. Alors, dans cet horizon désormais élargi à l'infini, où se situe notre famille humaine? Que devient-elle? Dérisoire, nuisible peut-être, comme un obstacle à une ouverture sur l'universel? Absolument pas. Elle est plus que jamais indispensable. Plus que jamais, elle est à sauvegarder comme un trésor. Car pour un enfant, la famille peut ou doit être le lieu privilégié où, à son échelle, progressivement, patiemment, respectueusement, le petit homme va découvrir cette filiation divine, va recevoir des mots pour l'exprimer, des sollicitations pour la mettre en œuvre. Dans sa famille, il va se sentir aimé, et c'est bien le meilleur moyen d'apprendre à aimer. Il va être initié à l'appel d'une ouverture humaine et spirituelle aux dimensions du monde. Toute la pédagogie des parents est appelée à travailler dans ce sens. Malheureusement, ce que j'évoque n'est pas forcément la réalité de toutes les familles, et en tout cas pour toutes, même pour les meilleures, cela reste un chemin toujours à reprendre. Et voilà ce que nous pouvons demander aujourd'hui en ce jour de fête, pour chacun de nous, pour nos familles, que le Seigneur entretienne en nous le désir, comme parents ou comme enfants, de toujours mieux découvrir, de toujours mieux traduire en actes ce que signifie être enfant de Dieu, comme individu et comme membre d'une famille humaine, avec ses richesses et ses pauvretés, en nous souvenant que ces richesses et ces pauvretés, Dieu lui-même a voulu les faire vivre à son Fils, en les confiant à Marie et à Joseph.